France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
J'ai voté pour Donald Trump en raison de son fort soutien pour le deuxième amendement et ses engagements en faveur de la loi et de l'ordre. Ce sont des critères importants qui ont motivé mon choix.
Nous avons dans ce pays davantage de brutalité policière que dans n'importe quelle autre nation dans le monde. Nous avons dans cette nation plus de violence raciale que partout dans le monde. Cette administration prétend vouloir instaurer la loi et l'ordre, mais elle n'a fait qu'apporter le désordre et le chaos.
Tous ces troubles qui se poursuivent, ça m'inquiète. Que va-t-il se passer s'il gagne ? Le scrutin sera forcément contesté.
Donald Trump, soudain contraint à l'isolement. Le président américain, testé positif au Covid-19, doit interrompre sa campagne et cela tombe pour lui à un très mauvais moment. À un mois de l'élection présidentielle, les sondages donnent en effet une avance confortable au démocrate Joe Biden au niveau national. Mais l'écart est serré dans les swing states, ces états qui oscillent entre bleu et rouge, entre démocrates et républicains, et où se joue chaque fois l'élection. Sur les 538 membres du collège électoral appelés à désigner le président, 10 seront élus dans l'état du Wisconsin. Cet état à dominante rurale du nord des États-Unis, réputé pour ses fromages, est une terre de reconquête pour les démocrates. En 2016, ils étaient tellement sûrs de l'emporter qu'Hillary Clinton n'a pas jugé utile d'y faire campagne. Et elle s'en est mordue les doigts. Donald Trump l'a emporté avec 0,8% d'écart. Cette fois-ci, pas question pour les démocrates d'oublier le Wisconsin. C'est d'ailleurs Milwaukee, la plus grande ville de l'État, qui devait accueillir la Convention nationale démocrate. Convention devenue virtuelle à cause de l'épidémie de coronavirus. Mais Joe Biden et sa colistière Kamala Harris ont bien fait le déplacement. Le candidat démocrate s'est notamment rendu à Kenosha où il a rencontré la famille de Jacob Blake, cet afro-américain grièvement blessé par un policier blanc. Donald Trump s'est lui aussi précipité dans la ville meurtrie par les émeutes, mais pour y inspecter les ruines de commerces brûlés et pour promettre de rétablir la loi et l'ordre. Le Wisconsin, symbole des fractures américaines, c'est un reportage signé Omar Waman. Invitée de ce grand reportage, la politiste Marie-Cécile Nave. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et vous suivez de très près l'actualité américaine. Je cite l'un de vos derniers ouvrages, Trump, la revanche de l'homme blanc, un livre paru en 2018 aux éditions textuelles. Nous allons parler ensemble de la campagne présidentielle en partant de l'état du Wisconsin où nous emmène Omar Waman. Omar, votre reportage commence dans la petite ville de Kenosha qui est désormais connue dans le monde entier.
Oui, au bord du lac Michigan, cette ville a connu il y a un mois, plusieurs jours et nuits d'une extrême violence après l'affaire, vous en avez parlé, de Jacob Blake, du nom de ce jeune noir de 29 ans sur qui un policier a tiré 7 balles dans le dos alors que Jacob Blake regagnait son véhicule. La vidéo a fait le tour du monde, Kenosha s'est embrasé, bâtiments détruits, voitures brûlées et des manifestations quotidiennes, des face-à-face entre pro et anti-Trump, vous allez l'entendre, particulièrement électrique.
Et nous allons tout de suite à Kenosha.
We matter! Without us, it wouldn't be no USA. I came over here in the bottom of the ship in chains. Fuck y'all!
La ville de Kenosha, à une heure de route au nord de Chicago, n'a plus rien de cette petite bourgade paisible au bord du lac Michigan, meurtrie après plusieurs jours de violence. D'un côté, les militants de Black Lives Matter. De l'autre, les partisans du président Donald Trump. La haine est palpable, le dialogue impossible. Grégory Bennett, un travailleur social de 40 ans natif de Kenosha, observe la scène à l'écart. Depuis plusieurs jours, cet Afro-Américain ne sort jamais sans son arme et son gilet pare-balles.
En fait, j'ai participé à l'invasion de l'Irak avant de démissionner de l'armée. Une partie de moi est toujours là-bas. Mais les États-Unis ne sont pas si différents. La police est brutale, elle tue les Afro-Américains tous les jours. Donc pour pouvoir rentrer chez moi et retrouver mes deux filles, eh bien je porte ce gilet et cette arme afin de me protéger et protéger les gens autour de moi. Et en même temps, je porte tout ça car c'est mon droit constitutionnel. Nous réclamons la justice pour tous, pour la famille de Jacob Blake, pour la famille Clark en Californie. Pour la famille de Mike Brown, pour la famille de Trevor Martin, nous voulons une vraie justice contre ces officiers de police corrompus, ces policiers qui ne respectent pas la loi, qui tirent sur des personnes désarmées et qui abusent de leur pouvoir pour faire du mal aux civils, des civils qu'ils sont censés protéger, pas tuer. C'est la raison pour laquelle je porte ce gilet pare-balles. La sécurité avant tout.
Les soldats de la garde nationale se sont déployés en masse. La veille, deux manifestants anti-Trump ont trouvé la mort, tués par un militant d'extrême droite de 17 ans, venu prêter main forte à la police locale. Et l'appel à prendre les armes a été lancé sur le réseau social Facebook par cet homme. Bonjour.
My name is Kevin Mathewson.
Kevin Mathewson, une armoire à glace de 36 ans, ancien détective privé et père de deux enfants. Il n'a pas hésité à prendre la tête d'une milice, son fusil semi-automatique en bandoulière.
Yes, I was armed. Yep.
J'étais armé, oui. Et c'était la première fois que je portais un fusil automatique comme celui-ci en public, la première fois de ma vie. Je me suis senti davantage en sécurité, car c'était une vraie zone de guerre. La ville était attaquée. Nous étions envahis par des gens qui, au nom de la justice, ont causé des destructions et ont fait du mal à la population. Donc un soir, j'ai dit à mes voisins, prenez vos armes et défendez vos maisons, vos familles, votre quartier. J'ai créé une page Facebook que j'ai appelée « La garde de Kenosha ». Des milliers de personnes ont répondu et ont écrit des choses comme « Je serai à l'entrée de tel quartier » ou bien « On a besoin de plus de monde ici ». Certains ne faisaient même pas partie de notre communauté. Ils sont venus des quatre coins de l'État. De Milwaukee, de Fond du Lac ou de Oshkosh. Des gens qui n'appartenaient pas à notre communauté, mais qui ont ressenti le besoin de venir en aide à leurs compatriotes qui étaient attaqués.
Et vous avez combien d'armes ?
J'en ai une vingtaine, oui, environ. J'en ai de différentes catégories. J'ai des fusils de chasse, j'ai des armes de poing pour me défendre. Certaines sont dans la cave, d'autres à l'étage. Celle-ci est de petite taille. Celle-là est plus grosse. Ça, c'est un fusil semi-automatique de type AR-15. Et là, pour des raisons de sécurité, il faut passer ses doigts et la boîte s'ouvre. Vous savez, je suis un conservateur, je crois aux libertés individuelles. Tant que vous êtes une bonne personne et que vous n'avez pas de casier judiciaire pour violence, vous avez le droit de porter une arme pour vous défendre.
En 2016, vous avez voté pour qui ?
J'ai voté pour Donald Trump en raison de son fort soutien pour le Deuxième Amendement et ses engagements en faveur de la loi et de l'ordre. Ce sont des critères importants qui ont motivé mon choix.
Et pourquoi a-t-il gagné dans cet État du Wisconsin ?
Je crois que c'était une question d'establishment. Il y avait Donald Trump, cet outsider, qui n'était pas un homme politique, quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Les gens ont aimé ça. Ils se sont identifiés à lui, au lieu de ses discours de politicien. Les gens n'ont pas voulu choisir un candidat de l'establishment, quelqu'un qui est le prochain sur la liste, dont c'est le tour. Je n'aime pas cette notion de « c'est son tour ». Elle est dans la politique depuis suffisamment longtemps, elle le mérite. Non, ça ne marche pas comme ça. Elle n'était pas la bonne personne pour ce poste. Et puis, on souffrait sur le plan économique à l'époque, et il a compris ça. Alors qu'Hillary Clinton était davantage attirée par le pouvoir. Elle voulait entrer dans les livres d'histoire, être présidente, avoir l'autorité. Tandis que Donald Trump avait un souhait sincère d'aider le pays. Il nous a rendu visite en 2016, pas Hillary. Il s'intéresse au Wisconsin. C'est quelqu'un que j'aimerais voir réélu ici.
Quatre années se sont écoulées depuis la victoire à la surprise générale de Donald Trump dans cet État clé du Wisconsin. À l'époque, de nombreux électeurs afro-américains, qui votent d'habitude démocrates, avaient boudé les urnes. Cette année, ils comptent bien se mobiliser. Mais ce vote noir, prévient Gregory Bennett, ne doit pas être tenu pour acquis.
I don't think African Americans can be put Je ne pense pas que les Afro-Américains doivent être étiquetés de gauche ou de droite. Les Afro-Américains votent pour ceux qui font des choses bien. Que vous soyez républicain ou démocrate, si vous faites de bonnes choses pour le peuple, alors on votera pour vous. C'est ce que les démocrates faisaient dernièrement. Vous voyez, ils étaient comme ça. Les républicains ont également tenu ce rôle. Abraham Lincoln était républicain. Martin Luther King était républicain. Vous voyez ce que je veux dire. Et si vous essayez d'aider la communauté et la culture afro-américaine, alors vous aurez notre vote. Mais ne nous dites pas que nous sommes démocrates ou républicains, parce que ce n'est pas le cas. Nous sommes afro-américains. Nous sommes d'abord des Africains qui vivent en Amérique. Si vous ne prenez pas en compte ce postulat, alors on n'a rien à se dire. En revanche, si vous êtes disposé à aider notre communauté comme vous le faites pour la vôtre, alors on pourra se parler et voter pour vous.
Et pour prendre sa revanche, le parti du candidat Biden compte sur la mobilisation afro-américaine, notamment dans la ville de Milwaukee, la plus peuplée du Wisconsin. Ici, la communauté noire représente près de la moitié de la population et la défaite d'Hillary Clinton il y a 4 ans est dans toutes les mémoires. Chris Walton, qui a des airs de Barack Obama, préside le Parti démocrate du comté de Milwaukee.
It was very much so unexpected. Usually the voter turnout in Wisconsin is very high.
On ne s'y attendait vraiment pas. Habituellement, lors d'une élection, le taux de participation dans l'État du Wisconsin est très élevé. En 2016, nous avons perdu près de 31 000 personnes qui ne se sont pas déplacées et qui avaient voté en 2012. Ils n'ont pas pris au sérieux le fait que Donald Trump puisse être élu. Parce que c'est Donald Trump et que ça n'avait aucun sens qu'il devienne président.
Chris Walton, vous représentez les démocrates ici, le parti démocrate dans cette ville de Milwaukee. Les récents événements extrêmement dramatiques, jalonnés de bavures policières, avec des débordements violents, des émeutes, des incendies. Est-ce que ça, c'est pas de nature à aider, au fond, Donald Trump, puisque lui, il se présente comme le président de la loi et de l'ordre?
Je pense que cette administration ne soutient pas le premier amendement de la Constitution qui garantit le droit de manifester. Nous avons dans ce pays davantage de brutalité policière que dans n'importe quelle autre nation dans le monde. Nous avons dans cette nation plus de violence raciale que partout dans le monde. Tout cela parce que cette administration a tout faux depuis le premier jour, en essayant de diviser les gens, de les mettre dans des cases et de leur dire « vous n'êtes pas de vrais Américains ». Ce n'est pas bien, ce n'est pas juste. Tout cela a commencé avec son Muslim ban qu'il a mis en place et honnêtement, c'est une connerie. Cette administration prétend vouloir instaurer la loi et l'ordre, mais elle n'a fait qu'apporter le désordre et le chaos. Et ce que nous devons faire, c'est comme pour n'importe quelle tumeur, nous en débarrasser.
Vous avez le sentiment que si cet électorat noir va voter, il fera la différence?
Absolument. Si les Afro-Américains se mobilisent à Milwaukee, on peut gagner cet État. Mais pour cela, il faudra également que la majorité blanche aille voter massivement, car nous ne sommes que 6% de la population. Donc on peut faire la différence ici, Milwaukee, mais pour remporter, gagner dans cet État du Wisconsin, il faudra que le reste de la population suive le mouvement.
Merci beaucoup.
Thank you. I appreciate it. Thank you so much, sir.
Et signe que ce vote afro-américain est très disputé, le parti républicain de Donald Trump a ouvert un bureau de campagne en plein cœur des quartiers nord de Milwaukee, avenue Martin Luther King, dans l'un des secteurs les plus déshérités de la ville, du jamais vu. À peine inauguré, il y a 7 mois, les locaux ont été dégradés. Une mauvaise surprise pour Tim Rogers, candidat au Congrès américain pour le parti présidentiel et maître des lieux.
Le lendemain de l'ouverture du bureau, il a été tagué avec des inscriptions. On est arrivé sur les lieux, on a tout nettoyé et depuis tout va bien.
Alors c'est à vous que le Parti républicain a demandé conseil pour savoir où s'installer dans les quartiers noirs pour conquérir un électorat afro-américain, parce que vous êtes originaire de ce quartier nord de Milwaukee.
Oui, c'est ça. C'était en 2018, j'étais candidat au Congrès et ils n'avaient pas de local du Parti républicain dans les quartiers nord de Milwaukee. Alors je leur ai dit, hé les gars, pourquoi vous n'ouvrez pas un bureau ici pour montrer aux gens que vous vous souciez d'eux ? Ça leur a pris 2 ans et un jour ils m'ont dit, hé Tim, trouve-nous un endroit dans les quartiers nord. Et on a ouvert.
Ça a été perçu comme une provocation par certains ici ?
Oui, absolument. Certains nous ont dit, pourquoi vous êtes ici ? J'ai répondu, on est là parce que vous êtes là. On veut montrer que les républicains s'intéressent. On a tous été républicains un jour.
Allez, entrons dans ce bureau. Alors ici, il y a évidemment des portraits de Donald Trump, le candidat, de son colistier Pence, Tim Rogers. Je vais vous décrire. Vous avez des tresses, vous êtes afro-américain. Vous n'avez pas le sentiment de vous trouver dans le mauvais camp ?
Je crois que c'est le bon côté. C'est pour ça que je suis de ce côté-là. Certains Noirs pensent qu'en raison de ma couleur, je devrais être de l'autre côté. Mais si l'autre camp ne fait rien pour ta communauté, s'il te maintient dans la pauvreté, c'est donc le mauvais côté. On a tous le droit de réussir dans la vie.
Est-ce que vous soutenez, vous, ce mouvement Black Lives Matter qui est très anti-Donald Trump ?
Non, je ne le soutiens pas. Car ce mouvement de Black Lives Matter est infiltré par des voyous. Et tous ces gens causent des destructions dans les villes du pays. Et ce n'est pas une bonne chose. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour montrer que nous nous soucions de la population et pas de la couleur.
Au revoir.
À bientôt.
Mais pour les militants de Black Lives Matter, qui sillonnent le quartier pour appeler la population à se rendre aux urnes, les efforts du Parti républicain ne changeront rien. Sans ancrage, sans relais, et surtout avec un Donald Trump qui s'est aliéné une grande partie de l'électorat noir en raison de sa rhétorique.
Sedan Smith, S-E-D-A-N-S-M-I-T-H.
Sedan Smith a 28 ans. Il préside une association citoyenne. Il a perdu son frère Sibyl, abattu par un policier en août 2016.
Il a été abattu par un policier de Milwaukee qui lui courait après. Mon frère a essayé de lui échapper en tentant de franchir une clôture. L'officier de police lui a tiré dessus une première fois, ce qui a provoqué sa chute, et le policier s'est approché de lui avant de faire feu une deuxième fois. Mon frère a été touché à la poitrine et il est mort. Il avait 23 ans.
À quelques mètres d'ici, le Parti républicain, que représente Donald Trump à l'élection, a ouvert un bureau dans le quartier nord de Milwaukee, le quartier les plus pauvres. Comment vous l'avez ressenti ça ?
Honnêtement, c'est comme recevoir une gifle en pleine figure. Car la majorité de Milwaukee est démocrate, dans le sens où elle vote pour plus d'égalité. Et les républicains ne font rien pour les villes démocrates. C'est le cas de Milwaukee. Et là, j'ai envie de dire, mais pourquoi vous vous installez ici alors que vous ne faites rien pour améliorer la situation dans le coin ? Ils s'en moquent. Ils ne veulent pas d'une refonte de la police. Ils ne sont pas du côté des Afro-Américains ou de la communauté noire.
Mais ils ont des candidats noirs comme celui-ci, Tim Rogers, rencontré tout à l'heure. Vous le connaissez, lui, Tim Rogers ?
Non. Et la raison pour laquelle j'en ai jamais entendu parler, c'est parce qu'il ne vient pas ici. Personne ici ne le connaît. Il veut être élu pour des raisons financières, pour se faire de l'argent, c'est tout. Il n'est pas là pour la communauté. On ne veut pas de 4 années supplémentaires avec Trump. Car il a installé un climat de haine aux États-Unis. Il a banalisé la malveillance. Il a banalisé le fait de dire ouvertement que certaines personnes d'origine étrangère ne sont pas égales aux autres. D'après moi, il veut lancer une guerre raciale. Et c'est juste inacceptable pour les États-Unis. À Milwaukee, il a rendu la vie des hommes noirs bien plus difficile qu'ailleurs. car ici la ville est connue pour être la plus raciste. Par exemple, dans le centre-ville, les écoles, en grande majorité publique, sont dans un piteux état et fréquentées uniquement par des enfants issus de la communauté afro-américaine. C'est un racisme systémique. Le salaire minimum ici est de 7,25 $ de l'heure. C'est le plus bas du pays. Il est censé permettre aux hommes noirs de subvenir aux besoins de leur famille, tout cela après avoir dû abandonner leur scolarité, car la plupart d'entre eux n'y arrivaient plus. Assez, c'est assez.
Selon le groupe de réflexion américain, la Brookings Institution, à Milwaukee, on ne se mélange pas. Dans la ville la plus ségrégée des États-Unis, où la crise économique fait des ravages, de plus en plus d'enfants ne mangent pas à leur faim. Et lutter contre ce fléau, c'est la raison d'être de la Hunger Task Force, un centre qui recueille des vivres pour les redistribuer aux plus démunis. Sa directrice, Sherry Tussler. Bonjour.
Hello.
Sherry Tussler, vous dirigez Hunger Task Force, littéralement une équipe pour lutter contre la famine ici à Milwaukee, qui est la plus grande ville de cet état du Wisconsin. On va entrer dans les locaux parce qu'il fait particulièrement froid. It's cold.
It's cold.
Yeah.
Today is cold. A week ago it was quite warm.
Weekend. Okay, I follow you. Je vous suis. Dans la salle sont empilés des cartons de nourriture, des sacs remplis de couches pour bébés ou encore des vêtements en prévision de l'hiver.
The city of Milwaukee has a child poverty rate.
La ville de Milwaukee a un taux de pauvreté des enfants de plus de 25%, ce qui signifie qu'un enfant sur quatre se réveille le matin dans une maison où il n'y a pas de nourriture. Donc, nous faisons de notre mieux pour aider le plus d'enfants et de familles possible. Il y a de plus en plus de chômeurs en raison de la pandémie et les aides de l'État ne sont pas à la hauteur. La faim n'est pas un problème de pauvreté. La faim est un problème de politique sociale. Et c'est un choix intentionnel de la part de notre gouvernement.
Nous sommes dans cet État qui est extrêmement disputé, avec au cœur des enjeux la question du vote noir, du vote afro-américain, qui peut faire la différence. À Milwaukee, la population que vous côtoyez tous les jours, qui est dans une logique de survie actuellement, est-ce qu'elle se sent concernée par cette campagne électorale et par le scrutin du 3 novembre 2020 ?
Je dirais qu'il y a 4 ans, les gens ne croyaient pas qu'ils pouvaient changer les choses. Mais le mouvement Black Lives Matter et les bavures policières à l'origine de la mort de personnes noires américaines ont provoqué une radicalisation qui a changé le climat. Les gens, maintenant, ont conscience qu'ils ont des droits. Ils parlent le langage des opprimés. Ils manifestent, parfois de manière violente, parfois de manière non violente, mais leurs voix sont entendues et ils sortiront pour aller voter. Nous ne pouvons continuer avec ces éruptions de violence, cette mauvaise gestion de l'économie, ces mauvais traitements infligés à certains de nos concitoyens depuis 4 ans. Cela doit cesser. Et mon message pour ceux qui nous écoutent peut-être, c'est que nous ne sommes pas racistes, nous ne sommes pas haineux. La plupart d'entre nous sont des gens normaux, qui gagnent leur vie en travaillant, qui prennent soin de leurs enfants et qui veulent juste vivre une vie heureuse.
Merci beaucoup. Le rêve américain, balayé par la crise économique, amplifié par la pandémie de coronavirus, partout, des usines mettent la clé sous la porte ou licencient massivement en attendant des jours meilleurs. Dans la petite ville de Rapids, au centre de l'état du Wisconsin, les habitants sont sous le choc depuis que l'usine de papier, l'usine Verso, véritable institution dans la région, a décidé de se séparer l'été dernier de la quasi-totalité de son personnel, soit près de 900 salariés avant une fermeture définitive. Ici, tout le monde est passé par la case Verso, au moins une fois dans sa vie. Des chômeurs que l'on croise désormais dans les bars du centre-ville. Bonjour Cathy. Nous sommes au Square Bar. Vous, Cathy, vous avez été licenciée. C'était
l'été dernier, c'est ça?
Oui, c'était il y a un mois. J'étais employée à des tâches de production. L'information a commencé à circuler au mois de juin. C'est à ce moment-là que l'on a appris qu'on était encore là pour deux mois. J'ai été choquée, mais je ne peux pas dire que je ne l'ai pas vu venir. Mais ça a quand même été un choc. Je suis une femme célibataire, j'ai deux enfants adolescents qui sont au lycée, j'ai 37 ans.
Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont voté Donald Trump il y a 4 ans?
Est-ce
que j'ai voté pour lui? Non.
And I will not vote for him
et encore une fois, je ne voterai pas pour lui cette année.
Voted for Hillary Clinton.
J'ai voté pour Hillary Clinton.
I know. This is a, that's an unpopular
et c'est quelque chose qui n'est pas bien vu dans cet endroit.
Vous faites partie de la minorité ici dans ce bar?
Oui, absolument. C'est un sujet sensible. Il y a eu des débats houleux ici dernièrement.
Et la fermeture de cette usine, Verso, dont vous êtes une des victimes, puisqu'aujourd'hui vous êtes obligé d'aller travailler dans une ferme pour nourrir vos enfants, vos deux garçons, qu'est-ce que ça dit de la politique de Donald Trump ?
Bon, je ne comprends pas grand-chose à l'économie. Mais je pense que si la pandémie de coronavirus n'avait pas eu lieu, les gens se sentiraient différemment. Je crois que sa mauvaise gestion de cette crise est un facteur décisif. Tout allait bien avant l'apparition du virus. L'économie était florissante. Et bien que je ne sois pas d'accord avec lui en tant que personne, je pensais qu'il ne faisait pas un si mauvais travail que ça. Mais depuis la dégradation de la situation causée par le coronavirus et sa gestion chaotique, j'ai perdu confiance en lui en tant que leader. Et j'ai peur qu'il puisse l'emporter.
Merci beaucoup. Au revoir, Cathy.
Thank you.
Thank you. L'annonce de la fermeture de cette usine de papier est vécue comme un drame de plus par cette population de rapides, une véritable chape de plomb, d'autant que ce n'est pas la première dans la région à déposer le bilan.
Absolument.
Rick Johnston, membre du syndicat majoritaire de l'entreprise.
Les gens vont rester davantage à la maison. Cela aura des conséquences sur les restaurants, les stations-service. Je connais des gens avec qui je travaillais, mes coéquipiers. Ils ne font plus rien. Ils restent à la maison le week-end. Ils surveillent leurs dépenses. Ils essaient de tenir le plus longtemps possible avant de trouver un autre emploi. D'ailleurs, ils ne trouveront pas un emploi comparable dans le secteur. Cela aura des conséquences sur la population pendant longtemps. Cette entreprise était le plus grand pourvoyeur d'emplois de la région du centre du Wisconsin. Ils offraient les meilleurs salaires, les meilleures conditions. Elle tournait depuis près de 100 ans.
Donald Trump a gagné l'élection présidentielle il y a 4 ans. Il a gagné notamment ici, dans cet état du Wisconsin. Est-ce que c'est le symbole d'un échec direct de la politique de Donald Trump?
Oui, vous pouvez dire que c'est un échec pour Trump, cette usine qui ferme, car les emplois ne vont pas rester aux États-Unis. Ils ne restent pas ici. C'est un échec pour Trump parce qu'il est actuellement le président, mais les présidents précédents ont également leur part de responsabilité. Personne n'a soutenu cette industrie. Elle a été tellement ignorée.
Et l'administration Trump aurait pu sauver cette usine?
Je pense que l'administration Trump aurait pu sauver, pas seulement cette usine Verso, mais l'ensemble de l'industrie du papier. On aurait dû faire quelque chose pour maintenir la grandeur de l'Amérique. C'était son slogan. Un autre de ses slogans était « produire américain ». Donc oui, Trump aurait pu faire des choses énormes pour l'industrie du papier, pas seulement pour cette usine Verso.
Mais le Wisconsin, c'est avant tout la crèmerie de l'Amérique. C'est l'État qui compte le plus de vaches aux États-Unis, plus d'un million répartis sur plus de 8000 fermes laitières. Bonjour.
Hi. Are you Sarah?
Yes, you found us okay.
That's a long way. Nous sommes à Wisconsin Dells, à une heure de Madison, la capitale. Et nous sommes dans une exploitation, 400 vaches.
Yeah, we milk 400
oui, on traite 400 vaches, trois fois par jour.
Nous sommes chez Sarah Lloyd et Nels Nelson, son mari. Six employés mexicains s'activent dans cette ferme nichée au milieu d'un paysage vallonné et magnifique. Sarah Lloyd, 48 ans, est une farouche démocrate toujours en colère contre Hillary Clinton qui n'avait pas fait campagne dans son état du Wisconsin en 2016.
Oui, c'est une erreur stratégique de cette campagne. Ils ont tenu le vote des électeurs du Wisconsin pour acquis, mais ils ne leur proposaient pas grand-chose.
Et votre mari, il est où, là ?
Mon mari est juste en bas, au bout de la route. Il s'occupe de nos vaches qui se trouvent dans la ferme principale où se déroule la traite, car ici, nous n'avons que de jeunes vaches.
On y va ?
Oui, allons voir Nels Nelson, c'est mon mari.
Les démocrates ont reçu une bonne leçon il y a 4 ans.
Oui, j'espère qu'ils ont retenu quelque chose de cette leçon. En fait, Biden n'était pas notre premier choix, mais il est vraiment trop dangereux de continuer avec Trump durant 4 ans. Ça, c'est clair.
On the right.
Take a right. Roll up your windows because you'll get flies in your car. That's the joy of the farm. And this is my husband, Nels.
Hi, Nels. Vous, vous employez des Mexicains ici dans cette exploitation. Le fait d'employer des Mexicains, des employés venus d'ailleurs, ça a été beaucoup plus compliqué depuis l'arrivée de Donald Trump.
Oui, effectivement, c'est plus dur, mais je sais que les grandes exploitations, plus grandes que nous, se plaignent beaucoup de ne pas trouver de main-d'œuvre. Notre pays ne peut pas fonctionner sans. Donald Trump dit « On n'en a pas besoin, mais en fait si, je ne sais pas si notre pays pourrait avancer sans cette main-d'œuvre étrangère. »
Sarah, la guerre commerciale menée par Donald Trump contre la Chine, elle a eu des répercussions, des conséquences sur votre exploitation et au-delà de votre exploitation, sur l'ensemble des exportations ici dans le Midwest. Le prix du lait, il a été divisé par deux, c'est une réalité.
Oui, le prix du lait était déjà bas avant que Donald Trump ne soit élu. Mais les guerres commerciales ont absolument été un choc et ont causé une chute très importante du prix du lait. Les producteurs de blé et de soja ont été encore plus touchés. Nous avons également un problème de surproduction dans l'industrie laitière, mais aussi en ce qui concerne les matières premières agricoles comme le blé ou le soja. Nous produisons beaucoup plus que ce que nous avons besoin et nous sommes très dépendants des exportations. Pour ce qui est de la filière laitière, l'an dernier, près de 15% de la production laitière américaine ont été exportées, alors qu'il y a 15 ans, les exportations n'étaient que de 4%. Notre dépendance au marché de l'export est donc en constante augmentation. Par conséquent, lorsque Trump se met à tweeter en plein milieu de la nuit et provoque une guerre commerciale, cela ne nous aide pas car nous sommes dépendants de ces marchés financiers. Ça a causé beaucoup de fluctuations du prix du lait.
Une des conséquences de cette guerre commerciale menée par Donald Trump, deux exploitations ferment chaque jour. Ce sont les chiffres que vous avez ?
Oui, nous perdons des exploitations très rapidement ici au Wisconsin. Le prix du lait est trop bas et je pense que l'an dernier, près de 900 fermes ont mis la clé sous la porte. En fait, la production revient aux plus grosses exploitations. L'écosystème de l'économie ne fonctionne plus, par conséquent, les zones rurales sont en très grande difficulté.
Surproduction de lait, chute des prix, des fermes de plus en plus grosses et robotisées ont poussé vers la faillite des centaines de petites exploitations. Mark Hines, 40 ans, a pour l'instant sauvé la sienne située au nord de Madison, la capitale, mais au prix d'un énorme sacrifice. Il a dû vendre toutes ses vaches laitières.
C'est mon bureau. C'est là que les vaches étaient prêtes, trois fois par jour. On en avait 280 au total. Nous les avons vendues en mai 2019. Il nous reste des bovins de boucherie et du jeune bétail, mais nous avons dû arrêter la production de lait en mai de l'année dernière.
Ça a été une décision dure à prendre.
Oui, ça a été une décision très difficile à prendre. Je pensais que j'allais faire ce métier de producteur laitier toute ma vie. Ce n'était pas ce que nous avions prévu, mais c'était la bonne décision à prendre.
Et pourquoi ? Why ?
Bon, je suis père d'une jeune famille et on ne gagnait pas d'argent. Ma famille passe avant tout. C'est important pour nous d'avancer et de continuer à exploiter cette ferme encore longtemps. On ne pouvait pas continuer à perdre de l'argent, donc on a dû faire différemment.
Et que faites-vous aujourd'hui maintenant ? What do you do ?
Mes parents, ma femme et moi, nous possédons des terres que nous cultivons, nous produisons du blé et du soja. Nous vendons également de la viande directement à des clients locaux, mais aussi à nos voisins ou amis, de la viande de bœuf et de porc, plein de choses différentes. Je pense que la taille de l'exploitation n'était pas la bonne. Il aurait fallu agrandir le troupeau et disposer de 1000 vaches laitières ou bien tout arrêter. L'exploitation nécessitait beaucoup de main-d'œuvre. Elle engrangeait de nombreuses dépenses, mais elle n'était pas suffisamment grande pour étaler les coûts et réaliser des profits.
Et contrairement à ses voisins qui sont des soutiens indéfectibles de Donald Trump, Mark Hines, lui, fait partie des indécis. Entre le président américain et Joe Biden, son choix n'est pas encore arrêté.
Le camp démocrate est inquiétant. Honnêtement, je ne pense pas que Biden soit compétent pour occuper le poste. Mais je ne sais pas, c'est la folie avec Trump. Je pense qu'il a mené la vie dure aux agriculteurs. Sa guerre commerciale nous a posé de gros problèmes. Et les agriculteurs continuent de soutenir Trump, d'après ce que je vois. Tous ces troubles qui se poursuivent, ça m'inquiète. Que va-t-il se passer s'il gagne ? Le scrutin sera forcément contesté. Donc oui, bien sûr, je suis inquiet.
Born a poor man, struggling just to live. Never had nothing, never had nothing to give. Born in the blues, I got nothing but holes in my shoes. Cause I've walked a many mile and all my troubles seem to pile. Born in the blues. Scraping round here for pennies while others throw them away. Is it something I did wrong or was it planned to be this way? Born in the blues.
Le Wisconsin, symbole des fractures américaines. Un reportage d'Omar Waman avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Invitée de grand reportage, Marie-Cécile Nave, directrice de recherche à l'IRIS et spécialiste des États-Unis. Alors, un mot pour commencer sur le vote de l'Amérique rurale. Au mois d'avril, l'administration Trump avait annoncé une aide de 19 milliards au secteur agricole. Là, quand il est venu faire campagne dans le Wisconsin il y a 15 jours, Donald Trump a promis aux agriculteurs une aide supplémentaire pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Et il a salué, je cite, les incroyables producteurs de produits laitiers, de canneberge et de ginseng du Wisconsin. Est-ce que Donald Trump achète le vote des agriculteurs ? On peut le dire comme ça ?
Oui, c'est pas exagéré de le dire comme ça, parce qu'on voit bien, et le reportage le montre très bien, et c'est factuel, il ne peut pas faire grand-chose contre les cours des prix. Alors, il a, certes, dans la renégociation de l'ALENA, il y a des conditions d'importation du lait canadien qui ont été durcies, mais ça reste une goutte d'eau dans l'océan, j'ai envie de dire, et c'est la même chose sur les questions industrielles, sur les délocalisations. Le président, l'État fédéral n'a que peu de prise sur une évolution de marchés qui sont inéluctables et qu'on retrouve aussi de l'autre côté de l'Atlantique finalement.
Et avec les guerres commerciales, il a plutôt compliqué la situation.
Alors tout le monde n'est pas d'accord avec ça, c'est-à-dire que là on a dans votre reportage des électeurs, des électrices qui sont plutôt sévères hein, sur le bilan de Trump en matière commerciale, mais il y a aussi beaucoup de gens qui le soutiennent, notamment dans la politique agressive qu'il mène vis-à-vis de la Chine. Et même si ça ne porte pas ses fruits concrètement dans la vie des gens, le storytelling autour de l'étranger, la Chine, les pays étrangers qui sont dangereux pour les États-Unis, qui menacent à la fois l'identité et aussi les intérêts économiques, c'est un discours qui quand même est un peu produit ses effets dans la tête de l'électorat. Donc Ça sera intéressant d'ailleurs de voir le 3 novembre, on saura peut-être pas le 3 novembre au soir, mais en tout cas le résultat de l'élection présidentielle nous montrera comment il y a eu une évolution du vote, ou pas d'évolution du vote d'ailleurs dans ces populations-là, populations plutôt rurales, du côté des démocrates traditionnels et des républicains traditionnels, ou ceux qui ont voté Trump en 2016 et qui sont déçus de sa politique pendant 4 ans. Ça va être intéressant de voir s'il y a eu une évolution dans l'autre sens ou pas.
Alors Omar Waman s'est aussi rendu à Kenosha où on voit qu'il y a deux lectures totalement opposées hein, de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Les uns voient avant tout les violences policières, les autres celles des émeutiers. Comme si l'affaire Blake et les émeutes qui ont suivi avaient renforcé les convictions de chaque camp. Est-ce que c'est ce que vous observez ?
Oui, oui, sur le sujet des violences policières, du racisme systémique et de l'envie d'avoir plus de loi et d'ordre, c'est sans doute un sujet qui clive le plus les Américains aujourd'hui, en partie parce que vous avez aussi un président qui souffle sur les braises, hein, c'est très justement dit dans le reportage, qui souffle sur les braises des divisions sociales, raciales, etc. Et même dans le débat qu'il a opposé à Joe Biden cette semaine, il a refusé une nouvelle fois de condamner le suprémacisme blanc. Il a plutôt dit le danger pour l'Amérique, c'est les antifas, c'est les antiracistes, appelant même un groupe d'extrême droite, les Proud Boys, à se tenir prêts. Si jamais, en gros, il ne gagnait pas l'élection. Donc, c'est un appel à peine masqué à la violence, en fait. Et donc, sur ce sujet de l'antiracisme, de Black Lives Matter et des violences policières, la population est extrêmement clivée, mais il y a quand même une partie plus importante qu'il y a, disons, un peu moins de 10 ans, enfin au début de la Black Lives Matter, du côté des Républicains, qui éprouve et qui manifeste une sympathie vis-à-vis... vis-à-vis des Noirs qui sont tués par la police et vis-à-vis du racisme. Il y a une évolution, sans doute, mais ça serait à vérifier, dans les jeunes générations, qui sont quand même un peu plus sensibles que les anciennes générations républicaines sur ces sujets de violence raciste et de racisme.
Et alors, ce ton très radical, ces positions très radicales de Donald Trump, ce sont des réelles convictions ou est-ce que c'est une stratégie pour que les Républicains serrent les rangs derrière lui ? Parce que du coup, il y a une opposition très, très forte entre d'un côté les Républicains, de l'autre les Démocrates, alors qu'il y a une période où les Républicains étaient un peu divisés. On a l'impression qu'aujourd'hui, finalement, plus Donald Trump est clivant, plus derrière les Républicains. Républicains serrent les rangs.
Alors, ce qui est sûr, c'est que le pays est extrêmement polarisé. Et d'ailleurs, c'est également, on l'entend également un petit peu dans le reportage, mais toutes les analyses et les grands reporters sur place le disent. C'est extrêmement difficile de débattre entre démocrates et républicains, y compris au sein d'une même famille. Enfin, le pays est vraiment très, très polarisé, et notamment sur les enjeux de société. Alors, c'est intéressant votre question sur le Parti républicain, parce que le Parti républicain, et c'est une des grandes victoires de Trump, est uni derrière lui. Et la preuve en est, peut-être l'indicateur le plus fort, c'est qu'il y a un seul sénateur, c'est Mitt Romney, qui a voté l'impeachment de Trump au début de cette année. Ils sont tous derrière lui. Et là, on les entendait, on voyait un peu dans le Washington Post, je lisais des articles hier, qui disaient qu'ils étaient un peu chagrinés de justement ce que je disais à l'instant, le fait qu'il a refusé lors du débat avec Biden de condamner le suprémacisme blanc. Il avait déjà fait à Charlottesville en 2017, on se souvient. Ils sont un peu chagrinés de ça parce que ils sont inquiets pour leur propre réélection. Ils se disent, ah, mais mes électeurs modérés, les indépendants, est-ce qu'ils vont pas être un petit peu quand même déçus ou énervés de voir que Trump finalement penche beaucoup du côté des racistes, hein, disons-le, même si ses convictions à lui, c'est difficile de les connaître. Mais on a envie de dire, bon, c'est un peu... ils avaient la possibilité pendant 4 ans de le contrer sur ces sujets, de proposer des alternatives, et notamment pendant 2 ans de voter une nouvelle loi sur l'immigration qui est une coquille vide, qui est un peu une patate chaude et qui les divise beaucoup. Mais quand Trump avait un congrès à majorité républicaine, ils avaient la possibilité de voter des lois sur l'immigration, par exemple. Ils ne l'ont pas fait, donc... ils peuvent aussi s'en prendre qu'à eux-mêmes les élus du parti.
Donc on voit cette fracture très forte. Est-ce que parmi les électeurs, il y a encore beaucoup d'indécis Ou est-ce que justement, du fait de cette polarisation, c'est beaucoup plus tranché cette fois-ci?
Il y a très peu d'indécis, il y a entre 3 et 5 % d'indécis, donc c'est quand même très peu. Et surtout, les courbes d'intention de vote de part et d'autre sont extrêmement stables depuis plusieurs semaines. Biden avait un petit peu creusé l'écart. Là, je parle au niveau national, parce qu'après, bon, il y a les États fédérés avec le collège électoral, c'est encore autre chose. Mais au niveau national, il y a entre 7 et 10 points d'écart. Il semble que Biden ait pris un petit peu plus l'avantage après le débat, mais il faut voir si ça ne retombe pas dans les prochains jours. Il avait un peu augmenté l'écart au moment de la mort de George Floyd, où il y avait eu un sentiment de sympathie assez grand envers lui et d'antipathie vis-à-vis de Trump. Et puis, au cours de l'été, c'est redevenu très stable. Donc, les courbes sont très stables, les indécis sont très peu nombreux, donc ça rend l'issue du scrutin encore plus incertaine.
Omar Ouamad.
Oui, alors on est à un mois du scrutin. Est-ce que, c'est une question que j'ai posée dans le reportage, est-ce que les démocrates, le parti démocrate amené par Joe Biden, est-ce qu'il a compris les leçons de 2016, notamment dans le Wisconsin, État démocrate qui a basculé dans le giron de Donald Trump, c'est également le cas du Michigan. Est-ce que les leçons ont été comprises, apprises plutôt?
Il y a un chiffre très intéressant dans votre reportage qui est avancé par un des leaders noirs du Parti démocrate qui dit on a 31 000 personnes qui se sont pas déplacées chez nous en 2016. Le Wisconsin bascule en faveur de Trump à 23 000 voix. Donc si les 31 000 personnes étaient allées voter, évidemment c'est un calcul un peu abstrait 4 ans après, mais on voit que ça s'est joué à peu. Et oui, je crois que Biden a tout à fait retenu la leçon de 2016. Il y est allé, il va y revenir sans doute. Et quand il est allé à Kenosha en particulier, il a parlé avec la famille de Jacob Blake. Et puis il a dans son programme, même si je crois qu'il gagnerait à le dérouler davantage, à en parler davantage, à communiquer davantage dessus, la volonté de réindustrialiser l'Amérique, de taxer plus lourdement les profits des multinationales réalisées à l'étranger, et d'avoir un grand plan aussi d'infrastructures, de redéveloppement des infrastructures, peut-être un grand plan de travaux publics, comme Trump l'avait en 2016 et qu'il a abandonné par la suite.
Est-ce qu'on sait aujourd'hui si les Afro-Américains se sentent effectivement concernés par cette élection? Parce que avant 2016, beaucoup d'entre eux pensaient que leur vote ne comptait pas.
Alors, c'est une population qui se mobilise beaucoup hein, au niveau national aux États-Unis. Les Afro-Américains, ils votent massivement. Ils s'abstiennent moins que les Blancs, par exemple. Et ils votent très majoritairement démocrates, surtout les femmes. Les femmes afro-américaines, c'est plus de 95% en faveur des démocrates parce qu'elles sont encore plus oubliées c'est parmi les plus oubliées des oubliées de l'Amérique, celles qui gagnent le moins à travail égal par rapport à d'autres catégorie de la population, et donc elles sont très sensibles aux questions des inégalités. C'est une des clés de l'élection, c'est-à-dire on va vraiment voir si la mobilisation se confirme, dans les états clés où il y a une forte communauté noire, eh bien ça peut faire la différence aussi. Et ce qui va être intéressant d'observer, c'est les jeunes. C'est les jeunes générations. Et là, Biden, c'est vraiment une des incertitudes de son scrutin. C'est-à-dire, vous avez une jeunesse progressiste qui est très engagée aux États-Unis, en particulier sur les questions de racisme, aussi d'environnement, de féminisme, on le sait. C'est souvent les mêmes personnes, d'ailleurs. C'est une jeunesse qui s'était beaucoup engagée derrière Bernie Sanders, qui aime beaucoup Alexandria Ocasio-Cortez, et qui n'est pas forcément très séduite par un Joe Biden qui fait pas rêver. C'est vrai, même l'électorat traditionnel, c'est pas un candidat qui fait rêver. Et donc, si cette population-là se mobilise, Biden a toutes les chances de l'emporter. Un espoir que le Parti démocrate peut avoir, c'est qu'en 2018, il y a eu les élections de mi-mandat. Et la jeunesse s'est plus mobilisée que d'habitude dans une élection de mi-mandat où l'abstention est forte. Donc,
ça peut être un indice.
Ça peut être un indicateur, mais c'est une des grandes clés et inconnues de cette élection, ouais.
Alors, autre inconnue aujourd'hui, Marie-Cécile Nave, la campagne de Donald Trump est complètement chamboulée puisque le président a été contrôlé positif au Covid-19, il doit rester confiné. Alors, à ce stade, Donald Trump a, nous dit-on, des symptômes légers et bon moral d'après son chef de cabinet. Donc, rien de grave, en tout cas pour l'instant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va devoir renoncer aux meetings électoraux. C'est un vrai coup dur pour lui.
Alors on voit que le storytelling de l'homme fort qui se bat contre la maladie et qui reste aux commandes est en place. Hein, et ce n'est pas surprenant. C'est-à-dire que très probablement, toute la communication autour du fait que Trump est atteint de la Covid va être tournée à son avantage. S'il est gravement malade, il pourra aussi dérouler un argumentaire en disant je comprends la vulnérabilité de ceux qui ont été, de ceux qui ont souffert, de leur famille. Et puis ici, il a des symptômes légers, mais saura-t-on vraiment toute la vérité sur à quel degré il est atteint? Ça, c'est un autre sujet. Eh bien, il pourra dire, vous voyez, je suis fort et je suis quand même aux commandes, je maîtrise les choses. Alors, mais quand même, ça le pénalise parce que
ce storytelling, il ne sera pas forcément cru par les Américains là cette fois-ci.
À part ses électeurs, sa base électorale le croit quoi qu'il fasse. Mais il est quand même pénalisé concrètement parce qu'il a annulé un déplacement en Floride aujourd'hui, un autre déplacement dans le Wisconsin demain, qu'il doit absolument remporter. C'est-à-dire le Wisconsin doit absolument le remporter. La Floride va être un état décisif. Là, pour l'écart entre les deux hommes est entre 1 et 2 points pour l'instant. Donc c'est un état vraiment décisif. Et ils font jeu égal en particulier dans l'électorat latino, qui est un autre sujet que le sujet qui nous occupe aujourd'hui, mais enfin, c'est important. Et puis, Trump, il a quand même beaucoup axé cette campagne sur le fait qu'il continue les meetings, il continue à se déplacer. Parfois, il fait des meetings uniquement sur le tarmac
de l'aéroport.
De l'aéroport. Et l'avantage qu'il va avoir aussi, c'est qu'il va être beaucoup dans la lumière. Sa maladie va être beaucoup commentée. Et Biden va avoir du mal à exister médiatiquement. Donc il va falloir qu'il fasse une campagne peut-être un peu plus... J'allais dire agressive, mais c'est pas le mot. Un peu plus offensive, voilà.
Alors, Donald Trump est quand même renvoyé à sa gestion de l'épidémie, qui est quand même un de ses points faibles, parce qu'il avait cherché à minimiser ce virus chinois, comme il dit.
Donc flou. Hein.
Ça lui revient quand même en boomerang là aujourd'hui, non ?
Oui, évidemment, ça c'est un mauvais point. C'est pour ça que ça va être intéressant d'observer la communication qu'il va choisir. Le fait que la Covid revienne sur l'agenda médiatique par le biais du président, c'est pas forcément, c'est quand même, ça va quand même être un peu gênant parce que oui, il avait minimisé, il avait nié, et puis majoritairement et même dans une grande partie de l'électorat républicain, notamment chez les plus de 65 ans et chez les femmes, sa gestion sanitaire de la Covid-19 est jugée désastreuse. Donc dans un électorat dont il a besoin d'avoir toutes les couches de l'électorat républicain conservateur qui adhère à son programme et qui vote pour lui, il est en danger chez les seniors, plutôt républicains modérés, mais qui sont plus vulnérables ou qui ont autour d'eux des gens vulnérables, et chez les femmes. Et l'électorat féminin blanc, républicain, ça c'est peut-être cet électorat-là qui va le faire perdre.
Et vous parliez de la Floride, il y a justement de nombreux retraités dans cet État.
Oui, absolument, tout à fait, vous avez raison. Des gens qui, une fois arrivés à la retraite, eh bien, vont habiter dans cet état ensoleillé. Absolument, oui.
Et Donald Trump, en plus, s'est peu protégé. Hein. Il ne portait pas toujours le masque. On peut dire qu'il s'est montré négligent. Ce n'est pas forcément très bon pour lui, tout ça. Alors que Joe Biden, lui, se montrait assez respectueux des règles sanitaires.
Oui, et Trump s'est assez moqué de Biden jusqu'au débat de cette semaine où il a dit « Biden porte toujours un masque. Il porte le masque le plus grand qui ait jamais existé. » Et aucune, assez peu de protection. On voyait aussi toutes les conférences de presse à la Maison Blanche ou les annonces où les gens n'étaient pas masqués. Dans les meetings, les gens ne sont pas masqués. Il n'y a pas de distanciation physique. Je parle des meetings de Trump puisque Biden n'en fait pas. Oui, mais encore une fois, il y a notre perception à nous de ce côté-ci de l'Atlantique. Et puis, il y a la perception qu'en auront ces électeurs et toute la communication assez intelligente, je pense, qui va être faite pour tourner cet état un peu de faiblesse de Donald Trump en force. Parce que la vulnérabilité de Trump, c'est quelque chose qu'il aborde, qu'il rejette. Et donc, ça va être tourné en force, en patriotisme, vous allez voir.
Omar Ouaman.
Est-ce que vous pensez que cette pandémie de Covid-19 pourrait décourager certains électeurs, notamment dans les quartiers déshérités, quartiers noirs, qui pourraient faire la différence s'ils se mobilisent?
Alors là, on entre dans un sujet très important qui est la participation électorale et la manière dont les gens vont voter. Donc, il y a toute une polémique dans le camp républicain sur le vote par correspondance. qui a déjà commencé, hein, les gens ont déjà commencé déjà à voter dans certains bureaux de vote, mais aussi le vote par correspondance, qui semblerait être plus utilisé par les électeurs démocrates, qui justement ont plus peur que les électeurs républicains des conditions sanitaires aux États-Unis, de l'hygiène dans les bureaux de vote, etc. Et le vote par correspondance est fustigé par Trump en disant « il y aura de la fraude, vous allez voir ». Pendant le débat de mardi, il a consacré de très longues minutes à la fin à ça.
Pourquoi ?
Sans doute parce que le vote par correspondance va être plutôt utilisé par les électeurs démocrates. Il y aura de la triche. On commence déjà à voir des sacs entiers de bulletins qui sont trafiqués. Enfin, tout ceci sans éléments tangibles. Hein. Tout ceci, c'est de la communication. Et il a aussi dit, mardi soir, j'invite les bénévoles qui sont dans ma campagne à être très vigilants le jour du scrutin, le 3 novembre, à aller surveiller les bureaux de vote pour que il n'y ait pas de triche dans le dépouillement, etc., etc. Et certains groupes néo-nazis et groupuscules d'extrême droite ont répondu présents sur les réseaux sociaux, et il y a un grand nombre d'autorités locales, de shérifs, de responsables politiques locaux qui sont inquiets de débordements le 3 novembre à cause de ces propos de Donald Trump cette semaine.
Merci Marie-Cécile Nave. Le Wisconsin, symbole des fractures américaines. Le grand reportage de cette semaine était signé Omar Waman. Réalisation Annie Bro, avec Jacques Hubert à la technique. Merci beaucoup à l'équipe de la documentation de Radio France. Et vous pouvez, bien sûr, comme chaque semaine, réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr. Yeah.